Donc, je vais parler donc des enjeux climatiques sous une forme qui pourrait permettre de converser avec ce qui a été dit avant de manière forte. Mais je vais essayer de tenir ce que j'avais me suis proposé pour essayer d'éclaircir peut-être un certain nombre de sujets. Alors, je suis un scientifique des sciences dures, qui a travaillé sur les problèmes de climatologie pendant beaucoup d'années. Ce que je vais montrer, dans le temps qui m'est imparti, c'est qu'aujourd'hui, on a un petit peu dépassé cette étape-là. On est quand même confronté à des choses qui ont lieu. Ces choses qui ont lieu sont des choses qui nécessitent aujourd'hui une vision du monde un tout petit peu différente de celle, même fortement différente de celle qu'on pouvait y avoir il y a une quarantaine d'années, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces enjeux. Voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé cet exposé « Le climat, de nouveaux enjeux ». Et puis, vous avez aussi trois logos, donc effectivement Sorbonne Université, l'école polytechnique me paye. Climaterra, j'en parlerai, c'est un travail qu'on a fait en région Aquitaine, qui est un travail pour savoir effectivement comment on peut commencer à prendre des initiatives et passer en fait d'une forme de diagnostic à quelque chose qui ressemble plus à une forme d'action. Voilà, alors je pense que c'est avec ça que je fais passer les slides, je pense, oui. Alors je vais commencer par donner quelques outils qui me paraissent importants. D'abord, qu'est-ce que c'est que le climat pour nous? Je vais y aller dire très vite, mais c'est quand même la manifestation d'un système extrêmement complexe. Quand on parle du climat, alors les Grecs ont été le premier, le mot climat est un mot grec, mais aujourd'hui, quand on regarde le système climatique, on regarde un système qui comprend des éléments extrêmement nombreux. Je ne vais pas prendre le temps, mais vous verrez ici qu'on a des fluides qui sont l'atmosphère, l'océan, on a le socle qui est sous les océans, dans certains cas, sous le monde dans lequel on vit. Et puis, vous avez effectivement aussi le vivant. Le vivant est un élément majeur de ce qui peut se produire dans le système climatique. Donc là, ces sphères du système climatique, elles sont là depuis longtemps, on les connaît depuis longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une phase un petit peu différente, qui consiste à regarder le temps réel, le temps d'aujourd'hui, avec ce qu'il a d'un peu particulier par rapport à ce qu'on peut regarder et que je vais montrer ensuite. Donc, quand on parle de climat, pour moi, on parle de la manière dont fonctionne un système climatique. Tout ce qui est ici, sur ce tableau, ce sont des choses qui communiquent entre elles, qui sont liées les unes aux autres, et c'est ce qui fait la complexité de ce monde. Alors, quels sont les... je ne suis jamais à l'aise avec ces choses-là. Voilà, on a peut-être, je vais me limiter à deux outils, qui sont des outils qui sont importants si on veut voir la capacité que l'on a eue à actuellement anticiper un certain nombre de choses. Et en fait, on n'a pas été capable d'anticiper beaucoup de choses. Vous avez le système réel, qui est un petit peu plus compliqué encore que celui que j'ai montré rapidement, qui est un système dans lequel on a à la fois un chauffage qui nous vient du soleil. Ce chauffage qui vient du soleil, il est à gauche sur ce diagramme, une partie qui se réfléchit et qui s'en va vers l'espace. Et puis comme on a un système qui chauffe, on doit avoir un système qui refroidit. Le système qui refroidit, c'est le système à droite, c'est celui qui fait fonctionner notre planète. Chauffage d'un côté, refroidissement de l'autre. Et ce refroidissement, bien, c'est celui qui fonctionne un petit peu moins bien maintenant, parce qu'on émet des gaz à effet de serre. Alors, c'est vrai que la fraction de ce qui intervient ici peut paraître très faible en termes de quantité d'énergie. Quand on a... je pense que la manière la plus simple, peut-être, de manifester, c'est de faire l'équivalence avec le corps humain. Corps humain, quand on a un degré de plus, ou deux degrés de plus, ou trois degrés de plus, on n'est pas facilement à l'aise. Donc les quantités très, très petites, ça existe aussi dans d'autres systèmes, qui sont des systèmes auxquels on est habitué. Et donc, on est aujourd'hui face à cet premier enjeu, et ça, c'est celui donc, qui nous vient du chauffage solaire et des combinaisons complexes qui mettent en jeu ce chauffage solaire. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas présenter en très peu de temps, mais il faut avoir conscience du fait que c'est tout ce système de mécanique assez approfondi qui est nécessaire si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, donc là je suis. Voilà, alors il y a un autre élément qui est très important, c'est celui qui est la. Alors, je ne voulais pas montrer cela, mais juste avant. Bon, on peut... Donc c'est celui qui est lié à la problématique du temps. Et je reviendrai ensuite un petit peu sur les aspects d'outils de physique, là aussi très rapidement. Vous avez ici sur le diagramme que vous voyez là, quelque chose qui nous donne une temporalité qui était très importante. Parce que donc, si vous regardez ici, ce sont des durées temporelles qui sont des durées qui sont sur donc, des millions d'années. Des milliers d'années, pardon, et qui vous montrent une période de temps qui est celle qui ont été. C'est les périodes de temps où on avait des humains déjà à cette époque. Nous, on est ici, on est sur cette période-là. Ce que l'on cherche à défendre, ce que l'on cherche à regarder, c'est ce qui se produit dans cette période-là. Alors, on a deux, c'est des choses qui ont été faites à partir de forages dans les glaciers, un glacier du nord. Ici, glacier du sud en bas, vous pouvez voir que c'est assez différent, vous pouvez voir que c'est assez que c'est des choses qui bougent beaucoup, et puis on a cette stabilité extraordinaire qui est la stabilité des 2 millions d'années à peu près, hein, quelque chose qui est très extrêmement marquant, et c'est cela qui fait le qui est le partie de ce problème que l'on cherche à préserver. On cherche à préserver ce domaine dans lequel on vit bien, et qui est en train de bouger de manière extrêmement rapide et extrêmement forte. Alors, si on essaie de regarder un petit peu plus loin, comment est-ce qu'on utilise cela, comment est-ce que l'on développe cela? Bon, on a des outils qui sont des outils... qui permettent d'anticiper beaucoup de choses. Donc un modèle climatique, ce sera le dernier slide, c'est un petit peu technique que j'utiliserai, tel qu'on le voit ici, c'est le travail d'une centaine de personnes à peu près, pendant une trentaine d'années, pour fabriquer une planète Terre qui ressemble à la planète dans laquelle on vit, mais qui est une planète un petit peu artificielle, que l'on fabrique à partir des équations. Les équations, ce n'est pas des choses magiques, c'est simplement le fait que on a des systèmes que l'on comprend dans la systémique et comprise, de l'ordre de même que quand on lâche sa main avec un petit bâton autour et qu'il tombe, bah on sait qu'il y a une physique qui est derrière. À la grande échelle, qui est celle du monde que l'on regarde, on a aussi une physique de systèmes qui sont des systèmes qui jouent leur rôle au fil du temps et que, à partir desquels on peut anticiper beaucoup de choses. Alors, pour essayer de montrer un petit peu ce que cette anticipation a voulu dire, j'ai essayé de mettre, plutôt que des slides, quelques schémas, qui sont plutôt quelques éléments. Alors, je m'excuse avec... Et j'ai intitulé ça « Le développement inexorable d'un problème mal compris », parce que c'est très souvent ce qu'on peut imaginer quand on voit ce qui se passe. Alors, pour cela, et toujours avec le sens... Voilà. J'ai mis quelques dates, parce que je pense que ces quelques dates sont vraiment importantes par rapport à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ces dates sont les dates de la prise de conscience qui s'est faite autour d'un des problèmes climatiques, qui est le problème des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions des gaz à effet de serre qui touchent à l'un de ces paramètres dont j'ai parlé, en particulier donc celui qui permet l'émission de gaz à effet de serre. Alors, c'est quelque chose qui, par rapport à la durée du temps que j'ai essayé de manifester rapidement, sont extraordinairement inquiétants, je dirais, peut-être d'une certaine manière, mais aussi permettent des réflexions qui sont assez lourdes. D'abord, les premiers soupçons sur ces enjeux-là sont venus dans les années 50. On a eu avant, bien sûr, et on peut remonter à des périodes assez lointaines, mais je montrerai quelques graphes qui témoignent de la rapidité avec laquelle les choses se sont faites. C'est dans les années 50 qu'on commence à avoir un soupçon sur le fait qu'on met les gaz à effet de serre, ils vont se stocker dans l'atmosphère. Et à cette époque, on était surtout engagé sur une vision de ce qu'étaient les problèmes climatiques qui étaient associés à la démographie, qui étaient associés au fait qu'il fallait savoir si on était capable de nourrir une grande partie de la population. Ce sont des enjeux qui restent toujours, et qui se superposent, mais avec quelquefois une petite nuance de bataille un peu entre ces observations, entre ces visions, qui restent les enjeux majeurs qui sont les nôtres. Alors, le premier rapport qui a démontré qu'on avait effectivement une capacité avec les équations d'anticiper éventuellement le changement climatique, c'est les années 79. C'est une date précise. Il y a quelqu'un qui, dans notre discipline, est extraordinairement connu, sauf qu'il est décédé juste après, mais qui a fait ce rapport charné à l'Académie des sciences américaines. Ce rapport charné, quand on regarde ce que sont aujourd'hui les évolutions du climat, c'est quelque chose qui est assez miraculeux, c'est-à-dire que tout ce que l'on a compris à cette époque-là est en train de se mettre en place. Et ça n'a pas été quelque chose qui a été immédiatement reconnu. Charnay a été l'un des personnes qui a fait ce travail. Un autre, c'est un couple de scientifiques qui ont eu pour la première fois un prix Nobel dans ces disciplines, et qui c'était l'an dernier, donc avec deux personnes qui avaient à peu près 90 ans, l'un comme l'autre. C'est-à-dire que la prise de conscience a été lente par rapport à ces enjeux-là. Elle vient maintenant. On a effectivement une capacité d'anticiper les choses, et j'y reviendrai. Alors, je ne vais pas suivre l'ensemble de ce diagramme, il est un petit peu long à regarder, mais la prise de conscience, donc, elle s'est développée à partir des années 80, 90, ça a été cité tout à l'heure, et avec des outils, des protocoles qui ont été des protocoles pour essayer de mettre en œuvre les choses, qui ont commencé à donner des résultats visibles dans le monde qui est accessible sans les élections, sans les équations. Et donc depuis maintenant un temps qui commence à devenir important, on est confronté à des choses qui ont lieu. Et ces choses qui ont lieu, on a du mal à leur donner un statut qui est, je pense, à la hauteur de ce que ça représente. Alors, je vais essayer maintenant de montrer quelques slides dont j'espère qu'elles ne seront pas trop... Et là, il faut regarder les chiffres un petit peu. Alors, voilà, ça, c'est une slide que j'aime bien montrer. Alors, c'est quelque chose qui a été fait entre les années 60 et les années plus... juste avant le Covid. Je me suis arrêté avant le Covid, parce que ce qui se passe après le Covid, c'est plus compliqué. Il y a eu des recherches. Ce que vous voyez, c'est les émissions de gaz à effet de serre, celles qui provoquent un effet. Donc, on peut penser que ce sont des émissions qui sont... que cette courbe est le résultat d'un cumul. Non, ce n'est pas le résultat d'un cumul. Vous avez 10 milliards de tonnes de carbone qui sont émis en 1960, chaque année. C'est des choses qui ont lieu tous les ans. Aujourd'hui, avant le Covid, mais ça revient, le Covid n'a pas changé grand-chose finalement, on est à 40 milliards de tonnes de carbone. Tout ça se stocke. Les gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère sur des périodes qui sont extrêmement importantes. Donc, ça veut dire qu'on est face à un système dont on pourra, et je le montrerai tout à l'heure, regarder l'évolution dans ce qu'elle nous propose. Mais c'est une évolution qui, en tout cas, est extrêmement rapide. Et pour le moment, c'est une évolution qui continue de se faire de manière toujours extrêmement rapide. Alors, maintenant, toujours avec... je suis parti du mauvais côté. Je voulais montrer quelques éléments aussi qui donnent à voir, parce que je crois que c'est très important de voir ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un des rapports du GIEC, celui, le premier, de la série de cette année, de l'an dernier maintenant. Ce que vous pouvez voir, et je vais me limiter, il y a beaucoup de choses à montrer, tous les rapports du GIEC ont des schémas avec lesquels on peut passer des heures. Là, vous voyez cette espèce de zone très stable que j'ai montré tout à l'heure, de l'Océan. Et là, ce que vous voyez ici, c'est comment ça a commencé à augmenter. Là, comment les, les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à changer les choses. Donc là, on est sur des périodes qui sont déjà des périodes très très longues, et on a le changement qui est observé aujourd'hui. On peut montrer que c'est lié aux activités humaines. C'est le diagramme de droite que je ne vais pas commenter trop en détail. Mais on a vraiment des preuves aujourd'hui que c'est lié directement et définitivement aux activités humaines. Et tout cela, ce sont des choses qui restent, qui se stockent lentement. Les gaz à effet de serre restent, la demi-vie qu'on leur donne, c'est quelque chose de l'ordre d'un demi-siècle. Donc c'est des choses qui engagent le futur de manière extrêmement profonde. Et quand on regarde, parce qu'il y a, on l'a vu, un système qui est compliqué, il y a des enjeux qui se manifesteront sur des périodes plus longues encore. Alors, la dernière chose, alors je vais passer cette slide, ce qui est une vision un petit peu différente de la première. Et je voulais finir sur ces slides en montrant un autre aspect du changement climatique, et j'essaierai de montrer une petite... Un petit élément supplémentaire. Là, vous avez ce que sont les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Ce qu'on doit savoir, c'est que les émissions de gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère, mais le mélange qu'ils font à l'échelle de cette atmosphère est quelque chose qui est, au contraire, extrêmement rapide. Ce qui veut dire qu'au-dessus de nos têtes, on a des gaz qui viennent d'un peu tous les pays de la planète. Réciproquement, on en émet aussi. Mais la part qui est la nôtre est une part qui est à l'échelle de notre démographie et plus exactement de notre capacité à créer des systèmes d'énergie aussi. Et donc on est dans ce domaine-là aujourd'hui. Et pour essayer de montrer que ce système est aussi un système qui est mouvant de manière différente. Alors, vous avez ici le stockage de cette chaleur. Le stockage de cette chaleur, il se fait très fortement dans les océans. Et ce stockage dans l'océan, c'est quelque chose qui, là aussi, fait qu'on a déjà commencé à mettre en place quelque chose qui est différent de ce qui avait lieu auparavant. Alors, je ne peux pas rester trop longtemps sur tout ça, je voudrais montrer aussi d'autres éléments, mais ce que l'on voit ici, c'est qu'on est vraiment dans un système qui est déjà en route. Et je voudrais vraiment insister fortement là-dessus. On n'est pas aujourd'hui sur une phase où on peut se poser beaucoup de questions, et c'est ce qui a été reproché souvent dans les rapports du GIEC. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe, ça commence, ça se manifeste de manière forte, et cette manifestation forte continue d'être une manifestation qui, pour l'essentiel, reste encore en augmentation. Alors, je voulais montrer, parce qu'on parlait un petit peu de cette difficulté à serrer ce que l'on sait, ce que l'on peut essayer de comprendre. Alors, je vais essayer de montrer ce film. Si ça veut bien marcher. Peut-être pas. Alors, je vais rester sur l'image fixe. C'est une image qui vous montre les émissions de gaz à effet de serre en jaune. Et ce que vous pouvez voir derrière, c'est effectivement le transport qui est fait de ces émissions de gaz à effet de serre pour une période qui est la période de l'hémisphère nord, où il y a peu de végétation, donc beaucoup de CO2 qui reste dans l'atmosphère. Et ce que l'on voit, c'est effectivement la complexité de ce système. Alors, quand on le voit qui est en mouvement, ça prend plus de temps en fait, pour décrire les choses, mais c'est aussi très, très frappant. On a un système qui d'ailleurs change, d'un hémisphère à l'autre, on a un système qui devient différent. Mais ce système-là, c'est ce système complexe dans lequel on vit. On ne peut pas attendre d'un système comme celui-ci que l'on sache tout sur tout. Je crois que c'est quelque chose qui rend la notion de complexité une notion très, très importante. Je crois que c'est une grande partie du travail des climatologues, ça a été d'essayer de faire la séparation entre ce qu'on comprend vraiment, qui relève de ces équations dont je parlais tout à l'heure, et puis ce qui relève d'éléments qui sont des éléments un petit peu arbitraires, parce qu'il y a une part de chaos dans le système climatique tel qu'il est j'allais dire qu'il est aujourd'hui, qu'il a toujours été en fait. Alors, maintenant ce que je voudrais, c'est montrer quelques éléments qui sont des éléments qu'on a essayé de mettre en place pour comprendre. Alors, c'est pareil. Et je vais m'arrêter sur un diagramme qui est un diagramme qui est un petit peu ancien maintenant, il doit y avoir 2 ou 3 ans. Donc le temps va vite dans ces problèmes-là. Et ce que l'on voit ici, c'est 3 scénarios, le mot a été prononcé tout à l'heure, qui sont des scénarios qui ont été faits par les trois groupes du GIEC simultanément, après l'accord de Paris, pour essayer de savoir comment on pouvait essayer de se projeter dans le futur pour rester sur ce qui était une des conditions de l'accord de Paris, c'était de dire on doit faire tout ce qu'on peut pour essayer de rester sous la barre des 1,5 degrés. Alors c'est un premier scénario qui est un scénario qui nous demande des efforts absolument considérables. Absolument considérables parce qu'il s'agit en 30 ans à peu près d'avoir réussi, c'est le scénario de gauche, à se débarrasser de ce qui est en gris. Il y a une petite part un petit peu plus foncée qui nous montre ce qui est vraiment ce qui sont les puits de carbone qu'on peut avoir. Mais ça veut dire être capable, dans un délai extraordinairement court, de réduire les émissions à zéro, puisqu'en fait, la neutralité carbone, hein, si on n'a pas de... Si on n'a pas de puits de carbone vraiment efficace, ce qui est le cas aujourd'hui, on doit rester à zéro. Donc on est là sur quelque chose qui est très difficile. Il y a un deuxième scénario où on trouve des facilités, on cherche des puits de carbone, alors plutôt en forant dans les sols, et puis en utilisant la végétation, c'est ce qui se dessine un peu dans le P2 et puis qui vient ensuite de manière plus forte dans le scénario P3. Et puis après, vous avez un dernier scénario qui dit finalement... On aura du mal et il faut un scénario qui nous dise qu'on risque de dépasser cela, puis peut-être de revenir en arrière. Donc pour moi, c'est quelque chose qui représente un changement majeur, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on est passé aujourd'hui d'une situation où la problématique était une problématique de... Vraiment, on parlait du passé, du présent, du futur. Là, on est dans une problématique qui est une problématique nouvelle en termes de ce qu'on peut imaginer comme capacité à réfléchir par rapport au futur. Donc aujourd'hui, on est dans un système qui est un système qui n'est pas maîtrisé et qui continue à augmenter de manière finalement relativement rapide. Alors, pour moi, ça fait surgir plusieurs idées. Et là, je vais maintenant en mettre moins de... La première, c'est que d'abord, on a beaucoup... considérer que c'était quelque chose, tout ce qui se produit aujourd'hui, qui était, avec un peu de bonne volonté, finalement, on y arriverait. Et que cette idée, voilà, on va y arriver, c'est quelque chose qui s'est imposé, au point de dire qu'il y a des éléments qui n'étaient pas nécessaires. Par exemple, s'adapter au changement climatique. C'était vu comme quelque chose, une vision un petit peu de personnes craintives qui veulent pas se mettre à l'échelle en fait des enjeux. Bon, la réalité aujourd'hui, c'est que quand on regarde ce qui se passe sur un pays comme le nôtre, on a un changement de climat qui est déjà perceptible. On n'a pas les outils pour le rendre perceptible de manière forte. Et la problématique première qui vient à l'esprit, c'est quand même de se dire qu'on doit être en capacité si on a envie sur des pays qui sont les nôtres, protéger ces pays-là. On doit protéger, protéger tout ce qu'on peut protéger. Alors il n'y a rien qui oppose cette protection par rapport à un changement qui a lieu plus vite qu'on ne le pensait, et puis la notion d'atténuation. Sauf que il faut les faire fonctionner ensemble si on veut qu'elles ont le rôle qu'on voudrait leur donner. Alors, je vais passer ce diagramme qui est un petit peu complexe à analyser, je m'excuse. Il y a beaucoup de conséquences qui sont là aussi très claires. Alors, je pense que je vais passer très vite parce que je pense que je n'ai pas mesuré mon temps exactement, je ne sais pas combien. Donc, je vais tout ce qui est conséquences, on parle du changement climatique avec le dérèglement climatique. C'est des choses qui aujourd'hui sont très claires, sont très manifestes. Bon, je vais les passer pour essayer de dire un mot justement plus fort sur ce qu'est la problématique de ce qu'on peut faire de manière cette fois positive et non pas en se laissant, en se laissant entraîner par des choses qui sont malheureusement très difficiles à empêcher. Vous avez ici en blanc ce qui reste maintenant chaque année de la calotte, de la présence de la glace pérenne dans l'océan, dans l'océan arctique, pas dans les continents. Dans l'océan arctique, c'est quelque chose qui a diminué pratiquement de moitié déjà, et qui va continuer à diminuer dans les années qui viennent. Donc je ne vais pas insister trop là-dessus. On a aussi tout le relèvement du niveau de la mer qui touche à peu près tout le monde sur la planète, qui est quelque chose qui se manifeste un petit peu plus lentement, mais de manière extrêmement têtu, je dirais. Donc il y a énormément de choses qui sont déjà et qui sont connues en fait du grand public. Alors moi je pense que ce qui est important, c'est de trouver aujourd'hui des manières de s'adapter à ce changement climatique. Le mot d'adaptation est toujours vu comme un mot qui est un mot un peu de retraite, hein, on va s'adapter. Mais je pense que c'est au contraire quelque chose dont on a un besoin aujourd'hui qui est absolument essentiel. On doit trouver des solutions. Ces solutions, moi, je les mets toujours un petit peu en deux parties. La partie de ce qui est nécessaire tout de suite. On a vraiment besoin de faire des choses, d'anticiper. On sait anticiper beaucoup de choses. On n'est peut-être pas sur le bon chemin exactement, mais il faut le faire. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se défile à l'échelle, à des échelles beaucoup plus lentes, qui sont celles que j'ai évoquées à plusieurs reprises jusqu'à présent. Donc, voilà. Alors, pour cela, moi, j'ai travaillé pendant presque une quinzaine d'années en région Aquitaine. Alors, l'Aquitaine, c'est ma région d'origine. Et j'étais un petit peu sous... On m'a proposé de faire un travail sur ce que pourrait être le changement climatique en Aquitaine dans les années qui viennent. Alors, je vais pas parler de l'Aquitaine en tant que telle, donc je ne vais pas revenir là-dessus trop en détail, mais je voudrais montrer qu'il y a des aspects systémiques aujourd'hui qui sont aussi des lieux qui permettent d'abord d'impliquer les gens et ensuite d'avoir des perspectives par rapport au changement climatique qui sont des perspectives qui sont ouvertes et ouvertes à décision et à décision multiple. Alors, je vais essayer de le dire en peu de mots, mais quand même, c'est ce qu'on a fait, et c'est le résultat d'un travail qui est collectif, qui est le... Alors, c'est pareil, je vais essayer de... Et première chose, ce qui nous a surpris, c'est que le changement régional, c'est quelque chose qui est très systémique. Quand on regarde comment ça se développe avec des liens entre des composantes du climat qui sont très différentes les unes des autres, mais qui sont absolument liées les unes aux autres. Donc, je ne peux pas regarder ça trop en détail non plus, mais ce que vous voyez, c'est que quand vous regardez ce qui se passe sur... Alors ça, c'est l'ancienne Aquitaine. Il n'y a pas tout. Mais on a essayé de faire un petit schéma qui vous montrait tout ce qu'il y avait, tout ce qui fonctionne de manière liée les unes aux autres. Ça, c'est le fait régional. Le fait régional, c'est quelque chose qui est complexe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut analyser avec les mêmes équations exactement que ce qu'on fait avec les modèles de très grande échelle, qui sont ceux de la météo, qui sont ceux de... On est confronté là à un besoin de développer des méthodes pour comprendre ce qui se passe sur cette échelle régionale. Et cette échelle régionale, elle nous offre des possibilités qui sont importantes. Alors, j'ai mis ça sur quelques slides juste pour l'adaptation. Ça concerne des changements qui sont, je pense, inévitables aujourd'hui. Et elle est nécessairement liée à l'atténuation, c'est-à-dire qu'on doit avoir ce double bénéfice entre ce que nous apporte le climat à grande échelle. Que le climat à grande échelle, on n'en est pas maître fortement. J'entends beaucoup des gens qui disent qu'il faudrait une gouvernance mondiale. Gouvernance mondiale, elle serait certainement chinoise ou américaine. Donc il faudrait faire attention, en tout cas, elle le serait peut-être. Donc il faut faire un petit peu attention. Aujourd'hui, on a aussi un espace qui est le nôtre, hein, qui est celui de là où on vit. Et je pense qu'il faut lui donner la place qu'aujourd'hui, il n'a pas. Je donnerai quelques exemples rapides ensuite. Ça ne peut pas se faire avec la science dure, seulement. Je crois que c'est vraiment important de voir que tout ce qu'on a pu faire en Aquitaine consistait à aller voir les gens, discuter avec les gens, à voir ce qui pouvait se faire. Il y a eu un travail qui a été important. Alors, il y a 400 chercheurs à un moment donné qui ont travaillé ensemble sur ces enjeux-là pour essayer de voir comment on pouvait mettre en place différents types de projets. C'est pas tout à fait facile à maintenir dans la durée parce qu'il n'y a pas non plus de financement très, très fort sur ces enjeux-là. Mais c'est quelque chose qui joue, je pense, qui peut jouer un rôle important. Il y a d'autres éléments que celui-ci qui peuvent jouer un rôle important. Mais je crois qu'on a en fait un petit peu partout sur le territoire national maintenant des possibilités d'action qui sont réelles et qui font pas. Il faut vraiment les mettre en œuvre rapidement. Et comme je l'ai dit, il y a ces deux échéances pour moi, celle de ce qu'on peut faire, qu'on peut déjà faire vite, et puis ce qu'on doit aussi anticiper par des problèmes d'ingénierie, par des choses qui vont venir plus tard, mais qui ne sont pas là pour le moment. Alors, les chapitres qu'on avait mis, on a fait deux gros rapports, hein, qui ne sont pas les rapports du GIEC, mais c'est un petit peu inspiré, mais avec vous voyez, je laisse juste voir, scanner un petit peu les têtes de chapitres. C'est déjà têtes de chapitres qui sont toutes multidisciplinaires, hein, qui vont jusqu'à des problèmes de gouvernance. Et c'est là, au travers de ça, qu'on a essayé de regarder comment ça pouvait fonctionner. Alors, je vais sauter maintenant pour essayer de garder mon temps. Je vais essayer de sauter une partie qui est typiquement aquitain. Vous n'avez pas besoin de ça nécessairement. Mais par contre, je voulais faire quelques remarques un petit peu génériques pour finir. Et je les ai mises sur une seule slide, qui est celle-ci. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont vraiment importants vu de la perspective d'un climatologue comme moi. D'abord, c'est dans ce qui a été déjà souligné, le fait qu'il y a une difficulté à comprendre ce que sont ces enjeux-là, la notion de médiation, d'éducation, d'écoute. Alors l'écoute, ça veut dire quelque chose de réciproque, parce que quand on se promène effectivement dans les différentes régions, parce que moi je suis parisien, je l'ai fait moins que d'autres, mais on est effectivement confronté à des gens qui savent beaucoup et qu'on doit s'abriter derrière cela. Le deuxième chose, c'est qu'on doit faire un suivi actif. Aujourd'hui, on n'a pas la recherche qu'il faut pour essayer de suivre ce qui se passe de manière claire dans l'environnement régional, comme on commence à savoir le faire à l'échelle plus grande, tout simplement parce qu'on n'a pas donné à ce futur qu'on commence quand même à connaître, qui n'est plus tout à fait un futur, le rôle qu'il devrait être. Je pense que ce suivi actif est nécessaire, il demande des recherches scientifiques qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a quelque chose de très... de très nouveau, d'une certaine manière, mais qui n'a pas attiré souvent l'attention, c'est le fait qu'on peut anticiper directement aujourd'hui des choses. Pourquoi ? Ben, on a émis des gaz à effet de serre, déjà, et ces gaz à effet de serre, on sait qu'on a, quand on regarde les choses a posteriori, ben, le travail qu'on a fait avec nos modèles est un travail qui est juste dans ces résultats, enfin, qui a donné des résultats qui sont... Donc on peut penser que si les 20 dernières années, on a su prévoir ce qui s'est passé, ben les 20 prochaines années, on va savoir aussi. C'est quelque chose qui est déjà inscrit dans ce qui peut se passer. Donc là, c'est que ça n'existe presque pas, en fait, comme manière d'essayer d'envisager les choses, en tout cas pas de manière consciente et organisée. Donc je crois qu'on a besoin de regarder ce que cette mise en action peut faire et peut me permettre d'en anticiper. Puis j'ai mis en bas la solidarité, les valeurs. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est essentiel. Parce que, bah, bien sûr, il ne faut pas laisser penser que ce que j'ai dit permet directement de faire prendre des décisions. Hein, les décisions, elles ont d'autres ressorts qui sont importants. Mais celles qui sont ici sont aussi importantes. Alors, il y a une phrase, alors, quelquefois je me trompe dans le sens, mais que j'ai trouvé qui est très... trouvé ça d'autres personnes, bien sûr, mais qui me plaît bien, qui consiste à dire que l'universel, c'est le local sans les barrières. Donc c'est un petit peu ça, ce qu'on a voulu faire en région Aquitaine. On peut effectivement, et dans d'autres régions, je sais que... dans les Pyrénées plus proche de chez vous, il y a aussi beaucoup de travaux qui sont de cette manière-là. Et je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très important d'arriver à passer cette épreuve qui est celle de passer vraiment d'une manière de considérer les choses jusqu'à une manière de les mettre en œuvre. Voilà.
Merci beaucoup, Hervé.